France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Elle était née en 1893 dans une famille de la grande bourgeoisie républicaine en Alsace. Elle avait grandi à Paris, s'était engagée dans des études supérieures et avait obtenu l'agrégation de lettres, chose rare alors pour une femme. Cofondatrice, à la fin de la Première Guerre mondiale, du journal hebdomadaire L'Europe Nouvelle, elle en fut la directrice ensuite pendant 14 années. Après avoir ardemment défendu l'établissement d'une paix juste avec l'Allemagne, elle avait dans les années 30 mis sa notoriété au service de la cause suffragiste. Mais en 1974, reçue par Pierre Lost pour une série de 5 entretiens sur France Culture, ce n'est qu'une toute petite partie de cette vie que racontait Louise Weiss, c'est d'elle dont il s'agit. Une conversation au cours de laquelle elle évoquait surtout quelques-unes des personnalités croisées le long de son chemin, et notamment Marcel Samba, Paul Valéry, le président Herriot, Aristide Briand ou encore la comtesse de Noailles.
Ces jours-ci, Madame Louise Weiss a publié un volume de la plus grande qualité, un volume du plus grand intérêt aux éditions Albin Michel. Il s'agit de « La résurrection du chevalier », le tome 5 de ses mémoires d'une européenne. C'est donc le cinquième volume d'une fresque monumentale. C'est la période d'occupation et de la guerre. Ce volume exceptionnel fait partie d'une épopée du siècle et c'est l'histoire d'une femme aujourd'hui octogénaire, racontée merveilleusement avec la lucidité des sages. Madame a 17 ans et qui était Louise Weiss ?
À 17 ans, Louise Weiss était une lycéenne qui s'apprêtait à quitter les études secondaires avec des ambitions qui ne correspondaient absolument pas avec les valeurs morales tenues pour convenables dans son milieu en ce qui concerne les jeunes filles. À 17 ans, Louise Weiss était une fille persuadée que le monde ne se menait qu'à coup d'idées, qu'il fallait en connaître toutes les doctrines, qu'il fallait parcourir le monde, qu'il fallait entrer en contact avec tous les êtres humains, et que, en somme, l'idéal d'une vie était que rien de ce qui est humain ne vous soit étranger. Évidemment, j'avais été formée par des femmes admirables, qui étaient persuadées de leur mission d'éducatrice et de pionnière dans le domaine des droits de la femme, mais qui n'imaginaient pas former des femmes destinées à une action professionnelle en dehors des charges familiales qu'elles devaient s'apprêter à assumer pleinement. Ces charges professionnelles, on ne pouvait pas les méconnaître, mais elle leur semblait un pis-aller et réservé aux femmes qui avaient absolument besoin de gagner leur vie pour pouvoir subsister honnêtement dans l'existence. Et en général, elles n'aimaient pas cette idée et leur idéal était celui de Molière, une Henriette ayant des clartés de tout. Cet idéal ne me suffisait absolument pas, mais malheureusement, les lycées de l'époque, c'est-à-dire avant la guerre de 14, ne préparaient pas du tout les filles à l'enseignement supérieur. Et quand on sortait d'un lycée, on ne pouvait pas se présenter au baccalauréat. Car la loi sur l'enseignement des filles, ne l'oublions pas, n'avait pas du tout été faite dans l'intérêt des filles. Elle avait été faite dans l'intérêt de la République. On voulait sortir les jeunes filles de l'éducation des couvents et en faire de bonnes laïques, de bonnes républicaines, dignes épouses des élus de la majorité radicale. C'est assez drôle de penser que nous avons dû l'éducation secondaire à ces préoccupations politiques. Mais ceci dit, les filles ainsi formées ont tout à fait dépassé ce que les auteurs de la loi attendaient d'elles. Et elles n'avaient qu'une idée, lorsqu'elles avaient un peu d'esprit, c'était de se ruer dans les universités. qui ne leur était pas ouverte. Pour ma part, comme je ne voulais pas entrer à l'école de Sèvres, qui formait les professeurs de l'enseignement secondaire, j'ai préparé le programme de l'agrégation d'une façon tout ce qu'il y a de plus indépendante. Je me suis présentée, j'ai été reçue. À ce moment-là, j'étais la plus jeune agrégée de France, mais la famille a très mal réagi à ce succès. Et ma mère m'a conseillé de ne pas l'annoncer à mon père, de crainte d'une crise de mécontentement, de mauvaise humeur. Et on ne le lui a dit qu'au moment où on posait les affiches de la mobilisation de 1914 sur les murs de la capitale. Et lui a soupiré. Un désastre frappa c'est l'autre. Comme compliment, c'était un peu mince, et je ne crois pas qu'aujourd'hui l'on trouve en France un père qui salue ainsi les succès scolaires de sa fille. Je ne dois dire que j'ai dû affronter la guerre toute jeune, comme toutes les Français, tous les Français de l'époque, et que cette guerre m'a complètement bouleversée. On vivait au milieu des morts et des blessés, dans une attitude morale de haine vis-à-vis d'une certaine partie de l'humanité. Et je dois dire que cette atmosphère ne me convenait pas. Et que j'ai donc, tout de suite après, fait partie très ardemment de la jeunesse issue de ces combats. Malheureusement, elle avait été décimée, et qui pensait qu'il avait pour idéal de dire « Nous avons vécu la der des der, et nous devons nous ruer à la construction d'un ordre nouveau. » Ces souvenirs de jeunesse expliquent toute ma carrière, et je dois dire que j'y avais été préparée par les idées humanitaires et par la culture universelle de mes maîtres.
Madame, avant que nous n'allions plus loin, j'aurais souhaité vous demander ce que vous savez de vos ancêtres.
J'en sais beaucoup de choses. J'étais très attirée par le récit de ceux que je considérais comme des vieillards, même lorsqu'ils n'avaient que 50 ans ou 60 ans. J'ai très bien connu mes grands-mères et fort bien une remarquable arrière-grand-mère qui était née l'année de la mort de Napoléon. Elle est morte à 94 ou 96 ans, alors que moi j'avais une quinzaine d'années. Par conséquent, par elle, j'ai connu un certain aspect du 19e siècle. Mais elle faisait partie de ce stupide 19e siècle qui n'avait pas été stupide de toutes les façons. Elle ne se rappelait des grands événements qu'elle avait traversés que sous l'angle de la pénurie ou de la profusion alimentaire. La guerre de 70, c'était le pâté de rat. L'époque de l'Empire à Paris, c'était l'époque des pâtes feuilletées et des glaces qu'on allait déguster chez Tortoni. Certains de ses enfants étaient établis en Autriche, d'autres en Angleterre. L'Autriche, pour elle, c'était une tarte au chocolat. Et lorsque je lui demandais de me rappeler quelques souvenirs politiques, elle n'en avait aucun. Et même lorsque je lui demandais de me parler de mon arrière-grand-père, comme elle n'avait été mariée qu'une douzaine d'années, elle me disait toujours, tu sais, lorsqu'on a 90 ans, 12 ans de vie, c'est pas très important. Ce qui me semblait, à moi, éprise de grands sentiments et de passion définitive, quelque chose de tout à fait extraordinaire et d'incompréhensible. Cette charmante arrière-grand-mère, qui m'a appris à faire de la bonne cuisine et à juger des bons vins, avait un gendre, qui était mon grand-père, et lui était un grand homme. Il s'appelait Émile Javal, il était membre de l'Académie de médecine, l'ami de Marcelin Berthelot, Et pour sa part, il avait fait faire un très très grand progrès à l'ophtalmologie en inventant les systèmes de mensuration des yeux qui sont encore en usage maintenant. L'ophtalmomètre Javal est un instrument qui porte donc le nom de mon grand-père et qui rend encore aujourd'hui les plus éminents services. C'était un homme très fortuné et qui mettait sa fortune très largement à la disposition des idées qui lui paraissaient justes. Il faisait partie de la Ligue de l'enseignement, qui était toute jeune à l'époque. Il a été un des fondateurs de l'école de Grignon. Il soutenait toutes les causes républicaines, son père ayant été un républicain de l'époque saint-simonienne, lié avec le comte de Saint-Simon. Lui m'a appris les idées. Et comme tout à fait à la fin de sa vie, il avait été frappé de cécité, ce qui était un drame pour cet ophtalmologue, j'étais amené à lui lire le journal, qui était le journal des débats politiques et parlementaires. C'était la feuille que lisaient les grands bourgeois de l'époque. Et il me disait, tu me liras tout ce que tu n'as pas lu à ma belle-mère. Autrement dit, je devais lire à sa belle-mère, qui était mon arrière-grand-mère, les potins mondains, la chronique de mode, les recettes de cuisine, et tout ce que je n'avais pas lu à ma grand-mère, je devais le lui lire. C'était l'éditorial politique, c'était les considérations sur la vie politique et parlementaire de l'époque, et les comptes rendus des livres sérieux qu'il ne venait pas, à l'idée de ma grand-mère, d'effeuiller. C'est lui qui a financé le départ de l'espéranto à Paris. Il était l'ami du docteur Zamenhof, qui avait inventé l'espéranto. C'est lui qui a financé les recherches biologiques tenant au meilleur usage de l'alimentation du docteur Metchnikoff. Et il avait toujours quelqu'un inventeur chevelu et malodorant à sa table, ce qui déplaisait souverainement à sa femme, qui était la digne fille de mon arrière-grand-mère, et qui lui disait « Moi, je ne peux pas m'habituer à vivre parmi les Ostrogoths. » Ces Ostrogoths étaient de grands savants, et je dois dire qu'en les fréquentant, toutes mes passions intellectuelles et métaphysiques se sont développées. Lorsque ma famille a jugé bon de m'envoyer en Angleterre, j'ai supplié de faire partie de l'université d'Oxford, où je m'étais inscrite comme étudiante en théologie. C'est vous dire que tous les problèmes du monde m'étaient très indifférents et que je ne pensais qu'à une chose, c'était aux doctrines qui feraient mieux vivre le monde dans un univers dont on sentait les menaces, menaces qui ont éclaté en 14 pour des raisons sociologiques multiples et qui, hélas, ne sont pas encore dissipées, car la nature humaine reste toujours la même.
Tout de suite, la suite de cette série d'entretiens avec Louise Weiss en 1974.
Madame, hier, vous avez bien voulu évoquer le souvenir de votre arrière-grand-mère, de votre grand-père, et aujourd'hui, je voudrais vous demander, envers qui vous sentez-vous une dette de reconnaissance ?
Je crois qu'il faut détailler le terme de reconnaissance. On est reconnaissant à ceux qui vous ont mis au monde, si on ne considère pas que le monde est une vallée de larmes. Comme Madame Mathieu est plutôt optimiste, je dois la reconnaissance à mes parents d'avoir fait de moi une fille en bonne santé, et pleine d'entrain, et en somme, qui a tout de même pu réaliser, non pas grâce à eux, mais grâce à la santé qu'ils m'avaient donnée, son idéal de jeunesse.
Alors, que devez-vous, par exemple, à votre arrière-grand-mère et à votre grand-père ?
À mon grand-père, je dois énormément, parce qu'au lieu de me brider dans mes aspirations intellectuelles, au contraire, il essayait de les affiner. Et je me rappelle qu'à 5 ans, comme je le conduisais par la main, puisqu'il était aveugle, à travers les rues du parc de Saint-Cloud où nous habitions, il me disait « Tu sais ce que veut dire courir, et tu sais ce que veut dire marcher. Explique-le-moi. » Alors je lui disais « On marche lentement et on court vite. » Et lui me disait « Pas du tout. On peut marcher vite et courir lentement. » Et il me le démontrait. Et sur tous les faits de la vie courant, il essayait de m'en apprendre le mécanisme et la philosophie. Quant à mon arrière-grand-mère, sur laquelle vous m'avez demandé de revenir et qui était une figure inoubliable de distinction, de dignité, de matriarcat, bien entendu, à elle, je ne dois vraiment aucune reconnaissance intellectuelle. Au contraire, c'est elle qui me questionnait et qui, reprenant le journal, me disait « Qu'est-ce que tu as compris de ce que tu as lu à ton grand-père ?» Je lui dois tout de même une certaine vue de l'Europe, qui est assez curieuse. Elle allait très volontiers à Vienne, comme je l'ai dit. Là, elle avait fait la connaissance de la fameuse Madame Sacher, qui était la propriétaire du très grand hôtel de Vienne, où descendaient les grands ducs de Russie, les autorités ecclésiastiques, toute l'aristocratie qui faisait l'Europe à ce moment-là. Elle avait rencontré l'empereur François-Joseph, dont l'allure était restée pour elle une sorte d'idéal. Alors je lui opposais aussitôt Napoléon III, mais elle trouvait que les mœurs de Napoléon III ne convenaient pas d'être évoquées par une jeune fille. Et lorsque je lui parlais, vers 17 ans, de la célèbre Madame Schratt, qui était l'amie de François-Joseph et dont j'avais entendu parler, elle me disait « Mais comment sais-tu ces choses, à ton âge, ici en France ? De tels secrets n'appartiennent à personne et il n'est pas de bon ton de les évoquer. » Elle tenait néanmoins à une grande apparence. Mais comme elle avait des moyens finalement assez limités, sa voiture et ses deux chevaux, qui la traînaient cette voiture, avaient un aspect assez minable. Et un jour, elle s'était parée de tous ses diamants, de toutes ses dentelles, pour assister à un mariage dans la famille Rothschild. Et lorsque son équipage est arrivé avec ses deux chevaux, que le cocher, qui était un républicain de bonne souche, avait appelé Germinal et Thermidor, et qu'elle est arrivée sous la marquise de l'hôtel Rothschild, dans un appareil qui contrastait avec le faste des équipages de l'ambassade d'Angleterre ou de Madame Réjeanne, le porte-voix des valets a annoncé « Et maintenant, l'ambassade d'Auvergne ». Ma grand-mère n'a pas du tout compris cet humour dont a ri pendant des années sa dame de compagnie en nous rapportant le propos. Mais elle était souveraine et ressemblait à la reine Victoria.
Si vous le voulez, madame, nous allons maintenant revenir à la guerre de 1914. Que s'est-il passé pour vous, dans votre esprit, dans votre vie ?
La guerre de 14-18 m'a marquée définitivement. Je la considère comme une période épouvantable de mon existence. J'avais 21 ans quand elle a commencé. Et au moment où je pensais, ayant fini mes études, pouvoir commencer à comprendre le monde et à y être mêlée, j'étais affrontée avec un carnage. Aussitôt, j'ai été infirmière de guerre. C'était des petits gars qui venaient de la Marne, que j'abritais dans un hôpital de fortune que j'avais constitué avec quelques amis en Bretagne. Eh bien, quand ces hommes arrivaient dévorés de vermine, crevant de fièvre, gémissant de douleur, qu'il fallait les déshabiller, les laver, les coucher, les réconforter, les soigner, tout ceci me semblait absolument monstrueux. Et puis, à côté de cet hôpital que j'avais fondé en Bretagne, j'avais également organisé un refuge pour les émigrés. Je me souviens d'une famille d'Anish Auberchicourt qui avait fui le Nord. Et ils avaient tout emporté avec eux, sauf l'essentiel. Ils avaient oublié leur argent, leur linge, mais ils avaient emporté leur serin, leur chat, des moules à gâteaux. Et je les avais recueillis en essayant de réconforter certaines familles qui étaient couchées dans la gare de Saint-Brieuc, à même l'asphalte, avec des boules de pain, des soldats comme oreillers. Alors toute cette famille, qui comportait 17 personnes, sont venues dans ce petit refuge que j'avais organisé à l'arrière du presbytère du village. Et de voir ces gens déracinés, qui ne pouvaient pas s'adapter à une province française qui était pourtant une province de leur pays, et qui avait une mentalité complètement différente des Bretons et qui n'avait aucun rapport avec ce que nous pouvions penser nous-mêmes, j'apprenais qu'il y avait beaucoup de familles spirituelles en France et dans le monde, et qu'il fallait se pencher sur tous pour bien les comprendre. J'ai continué toute ma vie. Je n'ai jamais cherché que cela, savoir pourquoi et comment battait le cœur des humains. Et puis, ces œuvres d'aide et de solidarité ont été complétées par un travail assez considérable que j'ai fait à l'œuvre du vêtement du prisonnier de guerre, qui avait été fondée par une de mes parentes, qui était une œuvre remarquable. Et je travaillais également à une autre œuvre qui s'appelait Le Secours au dépôt des Clopés. L'avenue des Champs-Élysées était transformée en bâtiment consacré au massacre, c'est-à-dire au secours national. Et ceci me semblait, je ne pouvais pas m'y habituer. Tous les matins, la plaie était aussi vive. Alors j'ai cru que je devais me lancer dans la bagarre des idées. Et avec ceux de ma génération qui restaient, j'ai fondé un hebdomadaire politique qui s'est appelé l'Europe Nouvelle. C'était l'Europe issue de la DRDDR, c'était l'Europe de la justice internationale et de la Cour de la Haye, c'était l'Europe qui avait fondé son espérance en la Société des Nations. C'était l'Europe qui devait comprendre la révolution russe et ce qu'elle avait apporté au peuple russe. C'était un journal de pointe très avancé au point de vue de la politique étrangère et de la conception de la France dans cette politique, et qui naturellement également réclamait pour les femmes une émancipation qui galopait due à la guerre, qui avait donné aux femmes des responsabilités inattendues, se met en un mouvement social qui s'épanouit aujourd'hui. Alors, en somme, toute cette œuvre sociale et politique que j'ai poursuivie jusqu'à maintenant est née de cette immense douleur. Mes amis, mes camarades d'études, mes cousins, les hommes que j'admirais le plus, étaient morts ou étaient revenus blessés. Et on émergeait d'un bain de sang. Nous n'étions pas préparés à cela, et notre éducation humanitaire et sociale se dressait tout entière contre l'événement qui avait décimé le pays. Alors on a essayé, j'ai essayé avec bien d'autres, que les choses aillent mieux.
Madame, quelles ont été justement les personnalités qui vous ont prêté leur concours à ce moment-là ?
Eh bien, je dois dire que mon cœur saignant et mes idées d'organisation universelle ont séduit un certain nombre de très grandes personnalités de l'époque, quelle que soit leur appartenance politique. Et alors, ils sont spontanément venus dans le petit grenier que j'habitais, dans le bas d'Auteuil. Et là, ont commencé des amitiés qui ont été indéfectibles pour moi. Dans l'ordre politique, j'évoquerai celle de Marcel Samba, qui était un homme extraordinaire, d'une culture incroyable, d'une gentillesse humaine profonde, qui était marié à une artiste, Georgette Agut. Il lui avait offert comme présent de noces le Christ de Rouen. C'est vous dire qu'il était en avance sur le jugement artistique de son époque. Et c'est lui qui m'a fait connaître et admirer Signac. Mais si j'avais eu quelques sous, j'aurais eu la plus belle galerie de tableaux du monde. Car sont venus se joindre à ces artistes autour de moi, Vlaminck, dont j'ai ici un tableau, Dunoyer de Segonzac, Dufy, avec lequel j'ai échangé une longue correspondance, Vandongen, puis également les grands écrivains, Madame de Noailles, Colette, la princesse Bibesco, pour citer d'abord les femmes, et puis d'autres, Paul Valéry, qui est devenu vraiment un grand ami, et des historiens. Souvent, j'allais voir Bédier, j'allais voir Lavis, qui ont disparu maintenant, et qui faisait partie de ces maîtres à penser qui m'avaient formé. Alors je puis dire que j'ai vraiment été entourée par les esprits les plus merveilleux de la France du début du siècle. Et ce n'était pas seulement vrai pour la France, c'était alors vrai pour l'étranger, car le journal L'Europe Nouvelle groupait dans tous les pays d'Europe l'élite de ces pays.
Tout de suite, la troisième partie de cette série d'entretiens avec Louise Weiss en 1974.
Madame, voudriez-vous qu'aujourd'hui nous évoquions encore certains souvenirs ? Et je voudrais notamment vous demander de nous citer des traits personnels de ces personnalités que vous avez connues.
Oui, j'y ai consacré certains de mes volumes. Voulez-vous que nous parlions de Samba, par exemple, de Marcel Samba, pour lequel j'avais une si vive amitié, une si grande admiration ? Il habitait un passe Cauchois. Qui donnait rue Lepic. Et là, j'allais très fréquemment déjeuner avec lui et sa femme Georgette, artiste peintre sous le nom de Georgette Agut. Et le ménage s'adorait. Mais Georgette était très, très impérative et très impétueuse. Et de temps en temps, elle interrompait la conversation en disant à Marcel Samba, « Marcel, je t'aime ». Les convives écoutaient, édifiés, cette déclaration. Et Georgette ajoutait, « Si tu mourais, je me tuerais ». Alors Marcel lui dit, « Écoute, tu n'irais tout de même pas à ce geste extrême en souvenir de ton vieil époux. Et songe à ta mère, qui aurait encore besoin de toi. Maman ?» Et Madame Hervieux, sa mère, était là. « Maman, elle aurait qu'à se tuer aussi. » Et comme cela, pas de regret. Alors toute la tablée éclatait de rire. Et elle ne croyait pas si bien dire. Je suis allée accueillir Marcel Samba lorsqu'il est revenu du congrès de Tours en 1920, lequel congrès avait consacré la scission définitive de la deuxième et de la troisième internationale. Et comme vous le savez, le journal du Parti Socialiste Unifié, L'Humanité, était resté aux mains de la Troisième Internationale et du Parti Communiste Français avec Marcel Cachin. À Tours, Samba avait vu s'écrouler le travail de toute une vie. Il s'était consacré, en effet, à réunir tous les partis socialistes, les guédistes, les alémanistes et d'autres, en un parti socialiste unifié, français, membre de la Deuxième Internationale. Et le congrès de Tours détruisait en quelques heures le travail de sa vie. Je me souviens l'avoir accueilli à la gare d'Austerlitz lorsqu'il est revenu de Tours. Il avait le visage défait. Et j'ai eu l'impression que la mort l'avait frappé comme la foudre frappe certains créateurs. Et en effet, très peu de temps après, il est mort d'une crise cardiaque à Chamonix, où il avait une maison. Georgette aimait beaucoup peindre les paysages de neige, les paysages des Alpes. Georgette a été désespérée et elle a pris sa décision et elle s'est tuée, comme elle nous l'avait annoncé. Et dans sa lettre annonçant son suicide, étaient ces simples mots: pardonne-moi Marcel, je t'ai fait attendre 12 heures. Tout au moins, c'était le sens en substance de cette phrase dont je ne me rappelle plus la formule exacte. C'était un couple pathétique, extraordinaire. Et Georgette, quand elle a vu le cadavre de son mari, s'est dit: j'ai réalisé ma vie de femme, j'ai réalisé ma vie d'artiste, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'autre raison d'être que de le suivre jusqu'au bout et au-delà de la vie.
Qui voulez-vous encore évoquer, madame?
Bien, je crois que vous aviez été intéressée par l'amitié que me portait Paul Valéry.
Oui, bien sûr.
Qui m'appelait mon petit cap à cause de l'Europe nouvelle, l'Europe étant pour lui, le prophète des temps modernes, le petit cap de l'Asie. J'avais quantité de lettres de Paul Valéry qui commençaient par « mon petit cap, mon cher petit cap ». Mais ces lettres m'ont été volées par les nazis lorsqu'ils ont emporté ma bibliothèque et tous mes documents. Alors je ne les ai plus, mais Valéry fréquentait très volontiers mon salon, mon cercle d'amis. Quelquefois, il était très facétieux. Autant il promenait un visage compassé et académique dans certains cercles littéraires, autant il aimait à se détendre en racontant des histoires drôles, longuement élaborées par lui. Un jour, il me dit, tout essoufflé, il était arrivé à pied, je quitte une admiratrice qui avait commencé à me commenter mes propres œuvres. Et alors, pour m'excuser, je lui ai dit « Tu penses, donc je fuis. » Et me voilà. Alors, c'était une entrée sensationnelle. Tout le monde a entendu ce jugement. Et puis, il s'est assis à table. Et là, il nous a fait l'un de ses numéros. C'était une sombre histoire qui durait une heure et qui était tellement drôle que le maître d'hôtel était obligé de poser le plat sur la desserte parce qu'il ne pouvait plus, les sauces débordaient, il tremblait de rire. Et le sujet de cette histoire était fort salace. Paul Valéry nous racontait comment, en se rendant à son domaine tourangeau de la Béchellerie, Anatole France, qui était son ennemi pour diverses raisons littéraires, s'était arrêté à la gare de Tours et là avait pris le temps de violer le jeune lampiste de la gare. Le récit de Paul Valéry, entièrement imaginé, bien sûr, comportait des quantités de détails au sujet des mouvements frénétiques de la lampe, de l'huile qui se répandait par terre pendant la consécration de cet amour, de la mine du jeune garçon, de ce que penserait Madame de Caillavet quand elle l'apprendrait, et que sais-je. L'histoire durait une heure. Alors, ces choses-là, généralement, se font en moins de temps qu'il ne faut pour les dire, mais pas dans le cas de l'histoire racontée par Paul Valéry au sujet d'un temps de France, son ennemi, à l'Académie et ailleurs.
Il adorait aussi les calembours.
Oui, il les adorait. Et je me souviens, chez une de ces dames, de ces égéries, un repas où il était assis parmi nous avec le grand peintre McAvoy et deux ou trois écrivains moins considérables que lui. À un moment donné, la maîtresse de maison, qui était une amie de Nathalie Barnet, dit « Je lève mon verre et levons tous notre verre à la, en l'honneur du grand écrivain qui est parmi nous. » Elle a levé son verre en l'honneur d'un minable qui était au bout d'une table, alors que moi je pensais que voulait honorer Paul Valéry. Alors Paul Valéry était ravi et dégustait son champagne en disant « Buvons au grand écrivain, buvons au grand écrivain ». C'était très drôle, il était plein d'esprit.
Vous venez de citer le nom de Nathalie Barnet, vous l'avez bien connue aussi.
Ah oui, j'ai beaucoup connu Nathalie Barnet, qui tenait un salon très très brillant. Et comme vous le savez, elle faisait profession de candeur. C'était une amazone. Et son salon était tout à fait blanc. Les rideaux étaient blancs, elle avait une peau d'ours blanc comme des cendres de lit, elle avait des fourrures d'agneau immaculées sur ses canapés.
Ses pigeons étaient blancs.
Ses pigeons étaient blancs, c'était des petits pigeons pans.
Vous parlez également des gâteaux, des petits fours qui étaient blancs.
Mais oui, les glaçures des gâteaux étaient blancs. Les colombes en albâtre, quand elles n'étaient pas dehors. Les cheminées étaient ornées de sculptures en albâtre. Tout était blanc. Et elle m'avait recrutée délibérément parmi ses amis. Et j'ai reçu un premier livre d'elle avec une dédicace qu'elle avait évidemment longuement mûrie. Et qui était ainsi formulée à Louise, sa nouvelle amie, qui n'a jamais rougi que de plaisir, signée Nathalie. C'était une invite à laquelle, évidemment, je n'ai pas répondu.
Voulez-vous maintenant nous dire un mot du président Herriot ?
Le président Herriot était un homme d'une très grande culture. C'était un historien de grande classe, il était musicien. Il savait des centaines de vers par cœur et les récitait volontiers. Je me souviens qu'un soir, il était venu ici tardivement, après avoir eu un débat à la Chambre très houleux sur le règlement de nos dettes de guerre vis-à-vis de l'Amérique, où il avait d'ailleurs, avec une éloquence admirable, soutenu la thèse de l'honnêteté financière qui doit présider à toutes les tractations d'une grande nation comme la France. Et en sortant de cette épreuve politique, il s'est assis au piano et il a joué l'Héroïque de Beethoven. Lui ne m'appelait pas mon petit cap, il m'appelait Edel, car Edelweiss. Et j'ai plusieurs de ses livres dédicacés à ma chère Edel. Nous étions donc en termes très affectueux. J'aimais cette culture, cette bonhomie, cette compréhension de tous et de chacun. Mais il n'était pas du tout en bon terme avec mon père. Car mon père, qui était un homme très remarquable, et qui connaissait fort bien l'économie du pays, et qui avait été chargé du ravitaillement en charbon de la France en guerre, avait eu, aux travaux publics, M. Herriot comme ministre. Il y avait eu une très très grande cabale contre Marcel Samba qui avait occupé le poste parce que la France souffrait d'une pénurie de charbon à laquelle on ne pouvait pas remédier puisque tout le bassin du Nord était occupé par les ennemis, que les communications avec l'Angleterre étaient réservées au transport de guerre et au ravitaillement de guerre, qu'il avait fallu remettre en état des petites mines secondaires qui ne suffisaient pas ni aux usines ni aux besoins de la population, et véritablement les Parisiens crevaient de froid. Alors, lorsque M. Herriot a pris possession du ministère des Travaux publics, dont dépendait le ravitaillement en charbon du pays, il a fait donc venir mon père, qui était responsable de ce ravitaillement. Alors, mon père a tenté de lui expliquer les réalités fondamentales qui rendaient impossible un ravitaillement satisfaisant. Monsieur Herriot n'avait pas beaucoup de sens des réalités économiques. À ce moment-là, la politique n'était pas dominée, ou du moins pas apparemment dominée, par les questions financières et par les rapports économiques. Et je dois dire que la formation d'Herriot ne l'inclinait pas à se saisir de ses problèmes et à les trancher. Alors, mon père lui a donc expliqué la situation et M. Herriot a refusé ses explications en disant à mon père, « Moi, si vous refusez ce charbon, je porterai sur mon dos ce sac de charbon aux nécessiteux qui en ont besoin dans leur mansarde. » À quoi mon père, exaspéré, lui avait répondu, « Cela ne m'étonne pas, les radicaux ont toujours été des bougnats. »
Tout de suite, la quatrième partie de cette série d'entretiens avec Louise Weiss, menée par Pierre Lost, en 1974.
Madame, avant de parler des grands tournants de votre vie, si vous le voulez bien, nous allons commencer par dire un mot de Aristide Briand, que vous avez bien connu, et aussi des étrangères. Aristide Briand.
Ce siècle que j'ai traversé a tout de même été dominé par des problèmes qui dépassent de beaucoup les anecdotes. Évidemment, je pourrais ennuyer les lecteurs, ou du moins, je lis cette crainte dans vos yeux, en procédant à l'analyse de la naissance du nazisme en Allemagne, comme je l'ai vu, aux conséquences du communisme russe sur l'idéologie de toutes les jeunes générations actuelles, en évoquant mes rencontres avec Trotsky, qui m'a expliqué à fond sa politique, et dont je suis allé visiter la veuve à Mexico après son traîtreux assassinat dû à Staline. Je pourrais également vous parler des rapports entre l'Amérique et la France, de l'Amérique regrettant de ne pas avoir pris part à la Société des Nations, créant après la guerre l'ONU chez elle, the United Nations, en sentant que ses défenses naturelles étaient de l'autre côté des océans qui l'entouraient, c'est-à-dire d'un côté au Japon, de l'autre côté en Europe, comment ces conceptions avaient fini par heurter les peuples qui y étaient associés, pourquoi j'ai été en Chine, comment j'ai vu l'Indochine et les rapports entre Hanoï et Saïgon, comment j'ai assisté à la baisse des niveaux de vie et des joies de vivre dans les pays que l'on a appelés les pays du tiers-monde d'abord et maintenant les pays en voie de développement et qui pour moi sont les pays en voie de sous-développement. Tout cela, je pourrais vous le dire, ce sont les grands problèmes de l'époque qui dominent actuellement le sort de la France qui est une puissance moyenne qui ne connaîtra plus jamais l'éclat qu'elle a eu lorsqu'elle était la première puissance du monde avec la Chine, sous Louis XIV. Mais enfin, tout ça, vous ne voulez pas l'entendre.
Mais non, mais je souhaite au contraire l'entendre, mais il nous faudrait 50 émissions. Votre vie est si passionnante et si riche que c'est non pas 5, mais 50 émissions qui nous faudraient.
Et toutes les années que j'ai consacrées à la défense des femmes, dont j'ai raconté les péripéties rocambolesques, avec, au cours de mes conférences et de mes bagarres avec mes contradicteurs. Tout cela, c'est peut-être plus important que les anecdotes que vous me demandez, mais toutefois, il y a des anecdotes qui sont révélatrices. Et puisque vous m'avez demandé de vous parler de Briand, je vais vous en raconter une qui me semble pleine d'enseignements sur les petits aspects de la diplomatie et les petits événements qui engendre les grandes catastrophes. Nous étions à Genève l'année de Thoiry. L'Allemagne venait d'entrer dans la Société des Nations. Et Aristide Briand voulait aller plus loin et établir des rapports confiants entre cette Allemagne et cette France qui s'étaient battues en 70 et en 14, et dont il prévoyait que si cette confiance ne s'établissait pas, entrerait dans un autre conflit tout aussi meurtrier et d'une importance internationale encore plus grande. Alors, après l'entrée qui avait été acclamée de l'Allemagne à la Société des Nations, l'année d'après, je crois, Aristide avait convié Gustav Stresemann à un repas intime dans la petite ville de Thoiry, dans le Jura français. Cette réunion avait été tenue secrète. Briand voulait échanger de libres propos. Il formait déjà, à ce moment-là, avec Gustav Stresemann, une sorte de couple amical comparable au couple que devaient former plus tard Charles de Gaulle et Adenauer. Il serait même très intéressant, dans une œuvre que je suggère aux historiens de la France et de l'Allemagne, de comparer, de rapprocher et de différencier l'action de ces deux tandems. Il y aurait beaucoup à dire sur la psychologie des deux peuples. Toujours est-il que Briand avait invité Stresemann dans une excellente auberge, lui avait fait un menu succulent, mi-campagnard, mi-bourgeois, et qu'il était revenu très satisfait de cet entretien. Stresemann était déjà très malade. Briand est rentré au Berg où il habitait, l'hôtel des Bergs, et Stresemann a regagné son hôtel, qui était de l'autre côté, non pas du Rhin, mais du Rhône. Et les journalistes ont tout d'un coup appris qu'il y avait eu cette réunion et qu'elle devait avoir une très grande portée. L'Angleterre s'est émue, les représentants de l'Angleterre à la Société des Nations qui avaient été tenus à l'écart de ce repas intime se renseignaient. La ville était en effervescence et les journalistes avaient l'habitude de se réunir à un café qui s'appelait le café de la Bavaria, où d'ailleurs les caricaturistes de l'époque ont laissé des souvenirs, et actuellement les touristes qui se rendent à la Bavaria peuvent voir sur la cimaise les portraits des grands hommes du temps, des égéries qui les accompagnaient et des journalistes qui auprès d'eux faisaient la pluie et le beau temps. Je suis l'une de celles-là. Donc cette soirée de discussion et d'échange d'informations passionnées à la suite de l'entretien de Thoiry se déroulait à la Bavaria. Et je dois dire que dans l'ensemble, Français et Allemands étaient dans l'euphorie. Mais il y avait déjà des Hitlériens qui, eux, n'aimaient pas l'idée de ce rapprochement. Un Français, en plaisantant, dit « Mais nous allons faire remarquer à nos lecteurs que pour accompagner Aristide Briand à Thoiry, l'on avait dispensé Stresemann de montrer ses papiers à la frontière. Il est entré chez nous sans montrer son passeport. » À quoi un Allemand qui tenait à envenimer le débat répond « Oh, ils ont été des millions qui sont entrés en France sans passeport en 1914. » Toute l'atmosphère amicale qui avait été créée par ce déjeuner et par les journalistes favorables à cette politique, avec la résonance qu'ils avaient dans le monde entier, ce qui était le cas à ce moment-là quand on écrivait de Genève, eh bien tous ces efforts-là ont été balayés en une seconde. Et l'atmosphère, la vieille atmosphère de haine et de querelle a ressurgi et elle ne s'est plus éteinte. Éteinte jusqu'à la libération par De Gaulle de la France. Après, De Gaulle s'est remis à l'œuvre inlassablement, comme Briand l'avait fait, en essayant de trouver le plus petit commun dénominateur entre l'âme germanique et l'âme française.
Madame, puisque vous désirez que nous abrégions les anecdotes pourtant si savoureuses que vous avez bien voulu nous raconter...
Oh, je ne le désire pas, je fais ce que vous voulez.
Voulez-vous tout de même nous dire un mot des étrangères, et notamment de la comtesse de Noailles et de
Hélène Vacaresco? Aristide les connaissait, ces grandes dames qui écrivaient si bien le français. Il les définissait cruellement, quelquefois. Ainsi, en voyant passer Hélène Vacaresco, dont les vers étaient charmants, mais l'apparence l'était un peu moins, car elle s'était laissée envahir par une obésité qui l'empêchait de se mouvoir. Briand disait « L'État, c'est moi. Le tas, c'est elle. » et quelquefois il la définissait même autrement, l'État, c'est moi. Lorsqu'elle avait une argumentation comme déléguée de la Roumanie à l'Assemblée générale de Genève, ne lui plaisait pas. Mais Hélène Vacarescu était l'une de ces remarquables roumaines qui participait avec ardeur à la vie parisienne. La princesse Bibesco en était une autre, et la plus célèbre de toutes, je crois, encore que je ne puisse dire que le talent de la comtesse de Noailles soit plus grand ou moindre que celui de la princesse Bibesco, qui était un écrivain français hors ligne. Tout de même, la comtesse de Noailles avait un panache et une éloquence qui surpassaient le brio de ses compatriotes. J'ai beaucoup de souvenirs sur Madame de Noailles. J'étais allée la voir en premier pour lui demander de me faire l'honneur de collaborer à l'Europe Nouvelle au moment de la mort de mon ami Philippe Millet, qui dirigeait le journal avec moi. Philippe Millet était le fils de l'ambassadeur Millet, qui avait joué un assez grand rôle en Tunisie à un moment donné. Et Philippe était un homme qui avait une grande autorité comme journaliste dans les milieux de la capitale. La comtesse de Noailles l'appréciait. Alors, je lui ai fait demander un rendez-vous et elle m'a reçu. J'avais l'intention de lui demander quelques lignes d'éloge funèbre, une oraison funèbre de Philippe Millet. J'étais terriblement intimidée. Elle m'a fait attendre, selon, je pense, un scénario très bien réglé d'avance, pendant plus d'une heure et demie, dans son salon, et elle m'a reçu dans sa chambre à coucher. Là, j'ai trouvé une femme qui se montrait de profil, et qui avait la main passée dans les broderies de sa chemise de nuit, d'un geste qui rappelait celui du petit caporal passant sa main dans son gilet, avec une grande natte noire qui cernait sa figure, les cheveux plats, comme le Corse, et qui daigne se tourner vers moi. Elle me toise et elle me dit: vous me demandez un article sur Philippe Millet, est-ce que vous aimiez Philippe? J'ai rougi et j'étais intimidée. Il n'était nullement question d'amour entre Philippe Millet et moi. Alors la comtesse de Noailles n'attend même pas ma réponse, elle me toise, elle me dit: non, vous et moi, nous aimons les garçons plus républicains. À la suite de quoi, elle a consenti à me donner cet article, et moi, pour la remercier, j'ai cru bon de faire paraître un article très élogieux sur son dernier volume de vers qui venait de paraître. Dans cet article, j'avais un peu insisté auprès du critique littéraire du journal qui se piquait d'avant-garde et qui n'aimait pas beaucoup les vers très classiques de Madame de Noailles, pour qu'il fût particulièrement aimable et élogieux. Je devais un remerciement à la comtesse. Et l'article disait qu'elle était une grande poétesse. Après quoi, j'ai reçu une lettre de fureur déchaînée de la comtesse de Noailles me disant: je ne suis pas une grande poétesse, je suis la plus grande poétesse de tous les temps.
Tout de suite, cinquième et dernière partie de cette série d'entretiens avec Louise Weiss en 1974.
Au cours de notre cinquième et dernier entretien, nous allons, si vous le voulez bien, madame, parler de votre nouveau livre, La résurrection du chevalier, qui est le cinquième tome de vos mémoires d'une européenne. Voulez-vous l'évoquer ce matin ?
Oui, j'ai essayé, en française, atteinte dans ses œuvres vives, dans son cœur, dans sa chair de patriote, de faire participer le lecteur à l'émotion perpétuelle dans laquelle nous vivions, dans cette France occupée, malheureuse, écrasée, désespérée, doutant parfois de retrouver jamais sa liberté, depuis cette écrasante défaite, jusqu'au jour qui devait nous amener la certitude d'une victoire finale. C'est un sujet tellement grave que ce volume, j'ai voulu qu'il débute par une méditation. Une méditation sur l'instinct de survie. Je crois qu'à ce moment-là, pendant ces 4 ans, la France a surtout été animée, possédée par un instinct de survie qui a fait qu'elle a traversé les événements avec une sorte de foi du charbonnier et en pensant qu'elle se retrouverait un jour libre au soleil comme avant. Et c'est ce qui est en effet arrivé. Alors évidemment, parmi ces Français, il y a eu des héros et des traîtres. Il y a eu des indifférents. Il y a eu de petites gens qui ont essayé de vivre au jour le jour. Il y a eu des créatures qui ont été à la fois des traîtres et des héros. D'autres qui s'enrichissaient sans vergogne au marché noir, mais abritaient des Américains tombés d'avion. La nature humaine, dans ces 4 ans de torture, de souffrance, de pénurie, s'est révélée d'une richesse et, je dirais presque, d'une surprenante psychologie, mais toujours dominée par cette volonté de survivre qui me semblait éclatante, peinte sur tous les visages. Alors les uns ont cru qu'ils survivraient en allant se battre avec les pays qui tenaient très haut le drapeau de la liberté, avec l'Angleterre, avec l'Amérique. Et les autres ont cru qu'ils pourraient sauver ce qui restait à sauver de la France en s'alliant avec une Allemagne, ou en combattant pour l'Allemagne, ou en approuvant l'Allemagne, qui dans leur esprit tordrait le cou à l'Angleterre comme à un poulet, selon l'expression bien connue de Végan. C'est ce tableau que j'ai essayé de dresser en me mêlant moi-même de très très près aux événements. Je crois que j'ai raconté d'abord l'Exode d'une façon assez inédite, car il n'y a pas eu que l'Exode par route, mais il y a eu l'Exode par bateau, par chalutier. Il ne faut pas oublier qu'une véritable armada partie des côtes de Normandie, et même au-delà des côtes du Marcantère, a sillonné tout le côté de l'Hexagone qui trempait dans l'Atlantique, sans quitter les eaux territoriales, ce qui était parfois fort dangereux. Il y a eu l'Exode par péniche. Et je sais que, par exemple, de Melun à Montereau, à un moment donné, la Seine était entièrement un pont de bois. Tout ça, j'ai essayé de le décrire. Et puis, il s'est trouvé que j'étais en mesure de rapporter du ravitaillement que m'offraient des amis américains en France. Alors, en pleine guerre, j'ai quitté la France, en août 40. Je suis allé en cliport aux États-Unis. J'ai récolté les dons de mes amis et il a fallu demander à l'Angleterre l'autorisation de leur faire franchir le blocus. Il me fallait des navires, certes. Mais l'Angleterre n'était pas très encline à consentir ces navires, certes, au gouvernement du maréchal. Enfin, j'ai mené toute une action diplomatique et finalement j'ai obtenu ces navires, certes, grâce à une intervention de Gaulle auprès du gouvernement britannique. Alors je suis revenu avec ma cargaison à travers ce blocus au cours d'une navigation sur l'Atlantique, qui a duré 17 jours, j'ai abordé au Portugal, j'ai traversé le Portugal et l'Espagne avec cette cargaison à bord de l'Hispano-Suiza de Jean Murat. Et je suis rentré en France non occupé. J'ai remis ces médicaments à la Croix-Rouge. C'était particulièrement difficile parce que le président de la Croix-Rouge, M. Pasteur Valéry Radeau, venait de disparaître dans la clandestinité, si bien que je suis presque restée en panne avec mes superbes cadeaux. Mais au bout de quelques jours, les services voulus s'en sont emparés pour le ravitaillement des réfugiés les plus déshérités et des prisonniers de guerre. Et puis, j'ai eu d'assez mauvais rapports avec le gouvernement de Vichy à la suite de ce cadeau qui les gênait beaucoup venant d'une républicaine attaquée par Hitler à la radio et mal vue de l'ordre nouveau. Lorsque j'ai proposé de retourner chercher une seconde cargaison, il m'a été posé comme condition que j'assortirai ces nouveaux présents de rapports de police sur les émigrés, dont l'attitude inquiétait beaucoup Vichy, qui se considérait comme mal renseigné sur eux. Alors j'ai claqué les portes, j'ai refusé de collaborer dans ces conditions, et à la stupéfaction de mes amis qui craignaient pour moi les pires dangers, je suis rentrée chez moi à Paris, où j'ai été accueillie en premier par un lapin qui s'ébattait dans mon salon. La gouvernante qui était à la maison et qui était restée m'a dit: Coco est charmant, il est tellement gentil que je ne peux pas me résoudre à le faire cuire. Et elle m'a dit: votre maison est déjà à moitié occupée, en attendant que ces messieurs se réveillent, vous devriez aller faire un tour pour bien vous rendre compte de ce que c'est que Paris. Notamment, allez donc jusqu'au coin de l'avenue Marceau et de la rue Pierre Ier de Serbie. Et si vous trouvez du crottin en route, me dit-elle, car quelquefois les chevaux de ces messieurs, les autorités d'occupation, en laissent, eh bien, mettez-les dans votre sac. Parce que pour les tomates que je fais pousser dans les bacs de notre balcon, ça serait très favorable. Il était 7 heures du matin. Je suis repartie faire ce petit tour. Et elle m'avait envoyé devant une affiche posée par l'Institut des études juives, et dans laquelle je figurais au nombre des égéries d'un régime enjuivé qu'il fallait détruire. Et quand je suis revenue, cette gouvernante, qui s'appelait Charlotte, m'a dit: alors madame a vu, madame a compris. Alors j'aime mieux prévenir madame qu'elle soit très prudente avec moi. Je vois bien déjà ce que madame fera. Elle n'aimera pas les autorités d'occupation. Je comprends ça d'ailleurs, ils sont affreux, ils sont horribles. Mais moi, je suis lâche et je trahirai madame si je suis questionnée. Alors j'aime mieux que madame soit prévenue et que surtout elle ne me dise jamais rien. Je trouvais ça tellement gentil que je lui ai dit: écoutez, ma chère Charlotte, soyez tranquille, vous ne saurez jamais rien de ce que je vais faire. Et en fait, je suis restée dans la maison assez longtemps. Mes amis continuaient à m'envoyer beaucoup de renseignements. Je les recevais avec énormément de précautions et de prudence. Mais malheureusement, autour de moi, se sont accumulés les départs pour ce que les Allemands appelaient Nacht und Nebel, c'est-à-dire pour le brouillard et la nuit. Je cite notre cher Maurice Bourdet, qui est parti dans des circonstances affreuses que je raconte. Mon chef de réseau, Albert Kirchmeyer, le réseau s'appelait Patriam Recuperare, a été pris également, et il m'a empêché de tomber dans la souricière qui avait été dressée autour de lui. Je devais lui téléphoner à une certaine heure, d'un café naturellement, pour lui donner certains renseignements. Il m'a coupé la parole en m'injuriant de telle façon que moi, qui ne savais encore pas comment on échappait à la surveillance de la Gestapo, j'ai pris ces injures pour de l'argent comptant. J'étais tellement fâchée que j'ai raccroché. Et je me suis dit après, mais il a voulu couper la filière, il a voulu m'empêcher de venir jusqu'à lui. Finalement, Albert Kirchmeyer a été emmené au Cherche-Midi. Il a été fourré dans la cellule des condamnés à mort, à côté de la cellule où a été enfermé Pierre de Gaulle. Et par un hasard extraordinaire, il a été sorti de cette cellule comme ancien combattant, par des geôliers qui l'avaient pris en pitié. Et au lieu de partir au poteau d'exécution, il a été envoyé à Mauthausen, dont il est revenu, des mois après, réduit à l'état de squelette ou de fantôme. Enfin, ce sont tous ces êtres héroïques que j'évoque. Et si mon livre s'appelle « La résurrection du chevalier », c'est que le chevalier, qui est un héros, qui était tombé délibérément en défendant le pont des Andelys pour empêcher les Allemands de passer la Seine, ce qui semblait à l'ancien combattant de la Somme, de l'Aisne et de Verdun, un désastre tel qu'il était impossible d'y survivre, eh bien, son âme, je crois, a revécu dans l'âme des héros qui formait le maquis et qui finalement se transportait à la rencontre des armées anglo-américaines qui libéraient la France stratégiquement. Je dois dire que le souvenir du chevalier, qui reste pour moi un des plus chers de mon existence, traversé de tant de drames, s'accompagne d'une sorte de lueur métaphysique. Car en effet, j'ai assisté à la résurrection du chevalier. À sa mort, au coin du pont des Andelys, il avait été chargé sur un camion avec d'autres cadavres. Ce camion s'était engagé sur la falaise de la Seine, face au château de Château-Gaillard. Et il a été atteint de plein fouet par un obus. Avec ses cadavres, ce camion a culbuté dans les champs de la petite commune de Villers-sur-le-Roule. Et là, ces cadavres dispersés ont été pieusement recouverts de terre par les paysans qui leur ont donné ainsi une première sépulture. Ces paysans, avec beaucoup de respect et de peine, avaient pris leur papier d'identité pour prévenir les familles. Mais ils avaient oublié de noter à quelle mort appartenait tel papier. Si bien, lorsque nous avons été prévenus que les Allemands exigeaient une sépulture plus définitive à ces héros, et que nous pouvions venir assister à cette inhumation, la municipalité de Villers s'est aperçue qu'il fallait déterrer tous les morts avant de pouvoir rétablir leur identité avec les cartes qui étaient d'un côté et les corps qui étaient de l'autre. Alors, cette journée reste pour moi inoubliable. Nous sommes arrivés par le train à Gaillon, par une journée de printemps lumineuse. Et la campagne était parée pour des funérailles agrestes qui répondaient exactement à l'amour que le chevalier avait eu pour la terre de France, dont il était un agriculteur. Et dans cette campagne splendide, on a commencé à exhumer ses héros. Moi, je ne voulais pas garder du chevalier une image autre que celle de l'officier plein d'entrain, confiant à la victoire, qui avait été ma dernière vision de lui. Alors j'étais avec son frère, et c'est ce frère qui s'est penché sur les restes que l'on exhumait ainsi. Et alors au troisième mort, on a cru reconnaître une pipe et un portefeuille qui en effet devaient lui appartenir et qu'il portait dans ses poches. Et l'on m'a apporté cette pipe. Je l'ai reconnu, et ce portefeuille. J'ai reconnu ma photographie qu'il portait sur son cœur. C'était lui. Alors on a chargé son corps, qu'on a roulé dans les draps qu'avait apporté son frère et sa sœur, et il a été hissé dans la carriole du boulanger. Nous avons suivi. Nous étions quelques-uns avec les notables de la commune. Et alors une fosse immense avait été ouverte pour ces 20 héros dans le cimetière de la commune, entouré de cerisiers toujours en fleurs, parsemé de violettes, hérissé d'iris, dominé par la stèle érigée ou en souvenir des anciens combattants de 14. Et alors on a descendu ces corps qu'on avait mis dans des modeste cercueil de bois, et les pelletées de terre sont retombées sur eux après cette résurrection qui m'a inspiré le titre de ce volume.
Madame, je vous remercie et je rappelle le titre de l'admirable volume que vous venez d'évoquer. Il s'agit de La résurrection du chevalier par Louise Weiss, édité chez Albin Michel.
C'était une série de 5 entretiens avec Louise Weiss, menée par Pierre Lost, et diffusée pour la première fois les 30 septembre, 1er, 2, 3 et 4 octobre 1974.